religions du monde, Geneviève Delru.
Il n'y a pas d'identité sans altérité. L'identité, quand elle se définit, quand elle se construit, elle est toujours vis-à-vis de l'autre, des autres. Sans l'autre, on n'est pas. Et quand on dit l'autre, on dit sa propre identité. Une identité renfermée sur elle-même, comme c'est le cas de l'islam actuel à mes yeux, il devient une identité renfermée, radicalisée, orpheline et parfois agressive.
Il faut faire attention quand on parle de ghetto. Il faut faire très attention quand on nomme aussi, parce qu'on assigne nous-mêmes ces territoires. Il y a une assignation de ces territoires-là.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Les 16 et 17 février dernier, s'est tenue à l'UNESCO à Paris la deuxième conférence de l'islam au XXIe siècle, une association qui entend valoriser les voix d'un islam contemporain, ouvert au dialogue, à la rencontre, un islam résolument moderne. C'est le professeur de médecine Sadek Belousif qui en assure la présidence, et c'est Eva Janadin, imam de la mosquée Simorgue et cofondatrice du mouvement Voix d'un islam éclairé, qui en est la déléguée générale. Elle sera le fil conducteur de cette émission. Cette émission qui entend donner un écho à ces deux journées. Pourquoi ? Parce que ce qu'il se passe dans ces lieux d'échange un peu confidentiels entre théologiens, islamologues, historiens, philosophes, sociologues, anthropologues, entre ces femmes et ces hommes de bonne volonté qui travaillent et vivent en France, en Europe également, à l'élaboration d'un islam progressiste, eh bien, ce travail doit être connu du grand public. Eva Janadin, bonjour.
Bonjour.
En tant que déléguée générale de l'association Islam au XXIe siècle, vous avez été une des chevilles ouvrières de ces deux journées, donc qui ont rassemblé des chercheurs des deux rives de la Méditerranée. Alors, sur le thème de cette rencontre, islam et identité, entre culte et culture, eh bien, à quel défi cette thématique voulait répondre?
Alors, l'objectif de traiter de ces liens entre culte, culture, identité tombe, je dirais, à pic déjà dans le cadre des prochaines élections présidentielles, où l'islam, encore une fois, encore et toujours, est montré, je dirais, de la pire des manières. La question de l'identité, à mon sens, dans notre société française, mais pas seulement dans l'ensemble des sociétés musulmanes ou non musulmanes, est fondamentale, puisque quand on se définit, on a besoin donc de définir son identité, soi-même, et son lien avec les autres. Donc c'est vraiment cette question-là, cette problématique-là, sur laquelle nous avons essayé de répondre par presque une trentaine d'interventions. Comment je me définis personnellement en tant que musulmane, en tant que musulman, par rapport aux autres? Qu'est-ce que ça implique, comme en matière de différence par rapport aux autres, mais aussi en matière de ressemblance? Quelles sont les questions que je peux me poser? Et ça posait aussi beaucoup la question du lien avec la culture, puisque nous vivons tous et toutes dans des pays différents. En plus, les musulmans ne sont évidemment pas que dans le monde arabe, hein, on le sait très bien. Donc, qu'est-ce que ça implique de vivre dans des cultures différentes, mais d'avoir la même religion, la même spiritualité? Qu'est-ce que ça implique au quotidien? Donc, c'est vraiment cette question très personnelle, finalement, du cheminement de chaque individu par rapport à son héritage, héritage familial, ou parfois un héritage qu'on peut choisir par le biais de la conversion. En quoi ça change cette manière de se définir?
Oui, ce qui est votre cas, effectivement, je précise que vous êtes convertie. C'était il y a 10 ans?
Oui, c'était il y a un peu plus de 10 ans, oui.
Et aujourd'hui, votre thèse, hein, vous êtes agrégée donc d'histoire, votre thèse porte sur l'islam?
L'histoire de l'islam médiéval, précisément.
L'histoire de l'islam médiéval. Effectivement, ces deux journées, finalement, elles s'adressent à des musulmans qui sont dans des pays où la religion musulmane est minoritaire.
Alors, ce que nous avons voulu faire, c'est d'essayer effectivement de s'adresser à ces musulmans qui ne vivent pas forcément dans un pays à majorité musulmane, mais aussi à des musulmans qui vivent dans des pays musulmans, puisque la question de l'identité n'est pas forcément quelque chose qui va de soi dans les pays musulmans. Vous avez beaucoup de musulmans qui quittent l'islam, qui sont des ex-musulmans. Donc la question aussi est de savoir comment eux-mêmes aussi se positionnent par rapport à ça, par rapport à cette donnée islamique. Est-ce qu'il y a un rejet catégorique? Certains, par exemple, se disent musulmans athées.
Oui, c'est une nouvelle expression.
C'est une nouvelle expression qui est très intéressante, puisque ça montre qu'il y a mille et une manières d'être musulman.
Ça veut dire que là, vous êtes musulman culturel.
Voilà, musulman culturellement, ou peut-être aussi par loyauté à l'héritage familial, qu'il ne s'agit pas de jeter en fait à la poubelle, même si on change de religion ou si on décide d'être athée. Il y a vraiment ce lien qui est très particulier. Un converti, au contraire, aura un petit peu la tendance inverse. Ne pas rejeter sa culture. Moi, personnellement, je n'ai pas rejeté ma culture française, mais je me suis convertie à un message spirituel, à une voie spirituelle, sans pour autant renier les aspects culturels qui m'ont fait grandir et mon héritage aussi familial.
Vous avez grandi dans un milieu chrétien ?
Pas chrétien, un vague arrière-plan chrétien, catholique, mais plus athée, en fait, la plupart du temps. Je n'ai pas eu d'éducation religieuse.
Est-ce que pour vous, vous voyez effectivement une différence si on dit un Français de confession musulmane, musulman français ?
Alors oui, c'est très compliqué.
Ça, c'est compliqué.
C'est
hein.
Différentes expressions parce qu'on a l'impression qu'on hiérarchise. Moi, je pense qu'il ne s'agit pas de hiérarchiser.
Qu'est-ce qu'il faut dire, selon vous ?
Je pense que ça va dépendre aussi du contexte, puisqu'en fait, Français et musulmans sont deux, justement, d'identités complètement différentes. Elles sont complémentaires au sein même d'un individu, mais je suis française, j'ai la citoyenneté française, j'ai vécu en France, j'ai été éduquée, élevée en France.
Culture française aussi.
Je suis de culture française, mais la voie spirituelle, c'est quelque chose d'autre. Ça touche aussi à l'intimité, ça touche à l'horizon métaphysique qu'on peut avoir, les questions métaphysiques qu'on peut se poser, sur l'existence humaine, sur des choses qui dépassent, là pour le coup, le simple cadre national. Donc je pense aussi que ça va dépendre de quel point de vue on va se placer.
Mais dans les revendications identitaires que l'on peut voir actuellement, il y a cette confusion entre les deux. C'est ça la question. Et c'est probablement ce que voulait soulever cette rencontre de Paris.
Exactement. C'est-à-dire que l'islam n'est pas qu'une voie spirituelle pour une certaine partie des musulmans. L'islam peut être aussi une voie d'engagement politique qui va poser problème parce que justement, il y a une confrontation. On ne parle pas, en fait, à mes yeux, de la même chose. L'islam, à mes yeux en tout cas, est avant tout un cheminement spirituel. Mais effectivement, l'islam devient, à certains égards, se politise en fait et a de plus en plus de poids. Alors là, je ne parle pas que du contexte français, hein, je parle aussi d'autres pays musulmans, et a du poids dans les relations sociales. Dans les relations sociales, c'est très compliqué de choisir une seule religion, puisque ça disqualifie automatiquement les autres qui n'ont pas forcément cette religion-là. Donc là, l'objectif, c'est effectivement de réfléchir sur cette question-là. Qu'est-ce que l'islam ? Qu'est-ce qu'être musulman ?
Alors, est-ce que c'est une identité ? Voilà.
Voilà. Est-ce que ça fait, à mon sens, ça fait partie de l'identité, de l'identité. Mais ce n'est pas une identité. Le problème de dire c'est une identité, c'est qu'on va la réduire à une seule voix, un seul caractère. On va essentialiser les choses, et c'est au moment où l'identité se crispe, où elle s'enferme, qu'elle pose problème et qu'elle devient excluante pour les autres.
La question du conflit de loyauté.
Exactement.
Ça, c'est une vraie question,
oui.
Ça.
C'est une vraie question, et c'est notamment, c'est en partie ce que Samia Langar a souligné, puisqu'elle
on
a vraiment fait,
tout à l'heure, oui.
Ouais, elle a vraiment fait une étude de terrain, et c'était très important à nos yeux de montrer en fait comment ça se passe vraiment au quotidien pour des musulmans lambda en fait, comment eux-mêmes peuvent se percevoir. Il y a un conflit de loyauté notamment dans les écoles où certains élèves parfois, parce qu'il n'y a pas eu suffisamment aussi de préparation, de formation justement sur ces questions d'identité, où se sentent un petit peu entre deux mondes. D'un côté, leur famille, ou dans lequel certaines valeurs sont apportées, et de l'autre, l'école. Et ils vont avoir l'impression que les deux se contredisent, alors que pas du tout. Il y a tout à fait possibilité de concilier les deux. Mais il y a toujours cette crainte d'être déloyal envers sa famille. Sans compter qu'en France, on a aussi l'histoire de l'immigration, on a aussi cette douleur qu'a représentée la colonisation. Et l'islam est devenu aujourd'hui aussi presque le seul moyen de se sentir exister en tant qu'individu, puisqu'il y a un sentiment de rejet à la fois dans la société française, qu'on ne peut même plus appeler société d'accueil, puisque là, on parle de musulmans de 4e, 5e génération, et la société dite d'origine. Mais est-ce que c'est encore une société d'origine quand on n'a pas connaissance vraiment de cette société, des parents ou parfois même des grands-parents? Donc, c'est essayer de se situer, c'est extrêmement difficile, hein, je dirais que c'est l'enjeu de toute existence humaine, de se situer et de trouver sa place.
Crise de l'islam, hein, c'est quand même malgré tout ce qui ressort hein, des interventions des uns et des autres. D'ailleurs, une question, Eva Janadin, comment choisissez-vous les intervenants? Les disciplines sont multiples, la sociologie, oui. L'histoire, la philosophie. Comment choisissez-vous les intervenants?
Alors, c'était essentiel de diversifier justement toutes ces spécialités, de ne pas faire qu'un colloque, par exemple, d'historien ou qu'un colloque de sociologue. L'objectif, c'est de montrer qu'en fonction des disciplines de spécialité, on peut avoir différentes méthodes de travail et aussi différents points de vue, de façon à ce que ça se complète. Donc effectivement, on a eu des philosophes, on a eu des sociologues, des islamologues, mais on a eu aussi des acteurs de terrain. Par exemple, l'intervention de Farid Green, hein, qui est aumônier à Fleury-Mérogis, qui s'occupe de
donc,
travailler...
aumônier pénitentiaire, dans le milieu pénitentiaire.
Voilà, aumônier pénitentiaire, et qui s'occupe de, avec les détenus radicalisés, d'essayer de déconstruire leur discours et de donner un discours alternatif, un autre discours sur l'islam. Et là, on a vraiment un acteur de terrain et c'était très important aussi de montrer comment ça se passe vraiment sur le terrain. On a eu aussi des... par exemple, Serhan Adesh, qui est imam à la mosquée de Berlin, Anne Isenveld, qui est présidente des Muslims for Progressive Values. Ces femmes sont des femmes qui sont engagées vraiment dans des actions très concrètes et qui ne sont pas seulement dans la recherche, dans la pensée, mais qui appliquent en fait ces éléments. Donc c'était important de montrer qu'il y a en amont un discours théologique réformiste qui s'est construit sur l'islam au cours du XXe siècle, mais qui a besoin de le mettre en pratique. Donc de montrer vraiment que c'est possible de le mettre en pratique et que ce n'est pas seulement quelque chose de totalement éthéré, abstrait, une réflexion de philosophe qu'on ne pourrait pas appliquer.
Et puis effectivement, c'est montrer qu'il y a à l'œuvre actuellement en Europe et aussi du côté méditerranéen, du sud de la Méditerranée, des hommes et des femmes qui travaillent à un islam progressiste. Et ça, on ne le sait pas assez.
Oui.
Et puis, c'est bien aussi de les rassembler, même quand ils sont en visio.
Voilà.
Ils étaient rassemblés.
Exactement. Bah, c'était aussi l'objectif de rassembler, de créer ce réseau en fait, autour d'intellectuels, d'activistes qui sont là et qui se battent tous les jours pour, dans leur propre pays pour essayer d'apporter un autre regard sur l'islam et de montrer que l'islam n'est pas ce qu'on en dit dans les discours extrémistes dans le champ médiatique français ou à l'étranger. Donc l'objectif, c'est vraiment de montrer que ça existe, qu'il y a un contenu, même un contenu intellectuel qui est légitime, puisque ça se base sur les textes de l'islam, et qu'il y a des mises en pratique vraiment très concrètes, en fait, qui se font au quotidien.
Oui, là, vous évoquez les personnes qui travaillent sur le Coran, sur les textes, qui les réinterprètent, hein, c'est bien ça.
Oui, qui les réinterprètent, et ça se fait depuis très longtemps. Mais peu de gens veulent le voir.
Alors, moi, je vous propose d'écouter un des intervenants. J'ai trouvé son intervention tout à fait intéressante. Il s'agit de Khaldoun Al-Nabwani, qui est un philosophe d'origine syrienne et qui a fait une assez longue communication, je vais vous en passer que quelques extraits, sur la question de l'islamocentrisme. Alors, on va l'écouter.
L'islamocentrisme, c'est le fait représenté et présenté par les musulmans actuels de leur islam en tant que la dernière de religion. Et être venu la dernière, ça veut dire en même temps, pour les musulmans radicalisés, islamocentristes, que l'islam n'est non uniquement est venu après la christianité et le judaïsme, mais il a accompli, il a corrigé, il a perfectionné toutes les religions qui ont venu avant l'islam. Et Mohammed, selon le Coran, Mohammed est le sceau des prophètes. Donc, tout est achevé avec l'islam. En d'autres termes, les chrétiens et les juifs sont musulmans, en quelque sorte, mais non complets. Et de ce point de vue, on a un islam absolu. Et quand on a un Dieu absolu, plusieurs dieux absolus en même temps. Comment ces dieux absolus, différents pourtant, comment ils peuvent vivre et cohabiter ensemble. Et comme on a des dieux, chacun prétend être absolu, on a les guerres de religion qu'on connaît à travers l'histoire jusqu'à maintenant. Et comme on a plusieurs lectures, les islamocentristes ne voient pas, ne refusent pas uniquement les autres qui adhèrent à d'autres religions, qui ont d'autres confessions religieuses, mais ils refusent également la différence au sein de leur religion, au sein de l'islam. Donc les musulmans qui n'adhèrent pas à la même lecture sont les différents à combattre.
Alors, j'ai rencontré donc à la sortie de sa communication Khaldoun al-Nabwani, parce que j'ai voulu quand même qu'il précise un peu plus loin sa pensée. On va l'écouter.
Oui, effectivement, j'ai parlé de l'islamocentrisme. C'est une lecture, à mes yeux, très dangereuse qui conduit au séparatisme, ou bien les séparatistes, c'est-à-dire trouvent dans ce genre de lecture l'origine de leur radicalisme. Donc, pour moi, j'ai essayé de présenter des solutions concrètes, pragmatiques, comment on peut sortir de l'impasse de l'islam, du séparatisme, qui est un phénomène existant, qui se propage d'une manière inquiétante en France. Et j'ai proposé donc des solutions politiques. L'islam en France ne ressemble pas forcément à l'islam ailleurs, et il y a plus de liberté ici. Comme disait Berck, l'orientaliste, le grand orientaliste français, l'islam a la chance de vivre une expérience différente ici en France.
Comment vous avez interprété la loi sur le séparatisme en France ?
J'encourage, mais en même temps, il ne suffit pas à mes yeux les solutions politiques. Il faut vraiment, c'est-à-dire trouver une autre solution sociale pour aborder l'islam en France, c'est-à-dire énerver, exciter les musulmans ici, les traiter toujours en tant que le mal qui vient d'ailleurs pour s'imposer ici. Ça les met en quelque sorte à l'écart. Ils se trouvent non reconnus. Et tout ça, ça provoque la violence.
Alors, Eva Janadin, votre réaction à ces propos. Première question, j'allais dire, à la femme imam et aussi à l'historienne. Mmh. Ce que vient d'expliquer effectivement Khaldoun al-Nabwani, la question de la dernière religion révélée, donc celle qui a le primat sur les autres. C'est un vrai problème, c'est le problème.
Alors, c'est un des problèmes, mais je pense que c'est surtout un problème d'interprétation. C'est-à-dire qu'effectivement, on a des traditions prophétiques donc, qui font partie de la sunna, donc l'ensemble des faits, des gestes du prophète, où il est dit que l'islam serait la religion parfaite, la dernière religion, donc celle qui aurait parfait l'ensemble des religions. Je pense qu'il faut remettre en contexte, bien évidemment, cette assertion. Le Coran a été révélé au 7e siècle dans un milieu où il y avait déjà des chrétiens, il y avait déjà des juifs, évidemment, et des zoroastriens, la religion en Iran actuel. Et donc, on avait cet ensemble, en fait, de religions. C'est-à-dire que le prophète Mohammed est né et a grandi dans cet univers religieux avec des références issues des monothéismes. Le Coran, à un moment donné, dit que Abraham est musulman en arabe. Hein. Musulman, donc, qui a été traduit par musulman, mais ça pose des problèmes de le traduire par musulman. Musulman hanif, c'est-à-dire hanif, c'est une personne qui se tourne vers Dieu, qui se tourne entièrement vers Dieu, mais un monothéisme pur, qui n'a pas forcément de lien avec une confession particulière, que ce soit le christianisme, le judaïsme ou l'islam. Le terme musulman est très compliqué. Ça voudrait dire quoi ? Que Abraham est musulman, ce qui n'a absolument aucun sens. Mais si on comprend muslim, le terme arabe autrement, c'est-à-dire avec la racine arabe, salam, c'est-à-dire s'en remettre, en fait, s'abandonner à la paix vers Dieu. Et là, ça change complètement le sens. C'est-à-dire que dire que l'islam serait la religion parfaite. Non, c'est pas l'islam au sens de religion, de confession, de communauté religieuse telle qu'on peut le voir aujourd'hui. C'est l'islam, le terme arabe islam, qui signifie s'abandonner à la paix vers Dieu.
Pas soumis à Dieu, pas soumis.
Non, pas soumis, je préfère le terme d'abandon, parce qu'il y a une action aussi de l'individu qui choisit en fait de se tourner vers Dieu, de s'abandonner lui-même à Dieu. Ce qui est différent, effectivement, du terme de soumission. Donc quand on essaie de comprendre vraiment ce que les termes arabes signifient précisément, ça change totalement notre manière de percevoir l'islam. Qu'est-ce que l'islam à cette époque-là ? L'islam, à l'époque de la révélation, n'était pas encore une religion instituée, politisée. Il s'agissait d'un message spirituel qui venait en fait se placer en fait à côté des autres
confessions. Oui, se positionner à côté du judaïsme et du christianisme.
Et simplement donner une autre manière de vivre la religion. Enlever toute idolâtrie, ça ne veut pas dire supprimer l'idolâtrie, ça ne veut pas dire on supprime tous les polythéismes. L'idolâtrie, c'est quelque chose, idolâtrer quelque chose, c'est pas être polythéiste, il ne faut pas non plus aussi confondre les deux. Donc le terme islam, vraiment, est un mot à prendre, j'irai avec des pincettes, puisque en fait c'est un terme arabe, qui n'est pas, on traduit islam aujourd'hui dans la langue française. Mais peu de gens, en fait, savent exactement l'étymologie de ce terme. Et c'est très important pour voir les choses autrement. Et c'est parce qu'on a compris islam comme communauté religieuse, comme ensemble de personnes qui formaient un groupe séparé des autres, qu'on en est arrivé avec cet islamocentrisme, parce qu'on a politisé finalement ce sens, alors qu'initialement, le sens de musulman et islam dans le Coran n'ont pas ce sens politique.
Mais chez un grand nombre de musulmans, Eva Janadin, il faut reconnaître quand même cela,
oui,
que l'islam, c'est la religion la plus pure, la plus aboutie.
Oui. Et c'est,
et les autres, c'est les koufars, quand même.
C'est un énorme problème, effectivement, aujourd'hui, parce qu'il y a une méconnaissance de cette histoire, de la formation du texte et de la formation des idées, de la pensée théologique. Cette méconnaissance-là, elle a mené, effectivement, à une conception qui est très impérialiste, en fait, parce que aussi l'islam s'est construit politiquement, territorialement, avec une hiérarchie, une hiérarchisation entre musulmans, chrétiens et juifs.
Alors, je vous propose de poursuivre avec Khaldoun Nabouani sur ce qu'il préconise en fait pour sortir, selon lui, de cette crise de l'islam, à savoir la séparation entre foi et religion. On l'écoute.
La religion, bien évidemment, a besoin de la foi. Mais la foi n'a pas besoin absolument de la religion. On peut être croyant, on peut avoir de la foi sans avoir une religion. La foi, pour moi, c'est une affaire personnelle, individuelle, intimement individuelle. La religion, c'est toujours sociale, sociétale, qui a besoin d'une communauté, de groupes, des adeptes, des foules, des guides. En fait, la religion est toujours, à partir de ce point de vue, une affaire politique. Et quand il y a de religion, il y a toujours la question de l'absolu. Chaque croyant croit en la conviction intime que leur religion est supérieure aux autres religions. Et ce n'est pas le cas de foi. Ce n'est pas le cas de foi, et avec la foi, on peut vivre en paix. Qu'est-ce que ça veut dire ? De donner le primat de Dieu plus qu'à Mohammed. De mettre, remettre ou placer peut-être pour la première fois depuis l'aube de l'islam, Allah au-dessus de Mohammed. Le Coran au-dessus des traditions, de sunnah. En fait, avec la foi, il y a un rapport direct entre le croyant et ce qu'il croit. Un Dieu, par exemple. Et ce n'est pas le cas pour la religion. Dans la religion, il y a des choses qui s'interposent entre le croyant et son Dieu. Des lectures, des imams, des muftis, des fiqh, des traditions. Il y a toujours quelque chose qui empêche le rapport direct entre un croyant et son Dieu. La foi, c'est comme l'amour. C'est universel. La foi, il y a une place pour tout le monde. Pour moi, la laïcité qui sauve l'islam aujourd'hui, c'est la séparation entre la foi et la religion, plutôt que la séparation entre la religion et l'État.
Alors, votre réaction, Eva Janadin, au propos de Khaldoum al-Nabouani.
Oui, mais c'est exactement en fait le message que, en tout cas personnellement, dans le cadre des voix d'un islam éclairé, on essaye justement de faire passer la foi. D'ailleurs, le Coran lui-même est un livre de foi, n'est pas un livre de religion. Les versets normatifs de la société sont c'est minime. Et en plus de ça, ça ne concerne que la société du 7e siècle. la foi est fondamentale dans la vie, de tout croyant. Et ça me fait beaucoup penser à ce que Mohamed Harkoun, donc islamologue algérien, qui a beaucoup œuvré justement sur la réforme, pour la réforme de l'islam, il distingue une religion personnelle d'une religion formelle. Et quand il parle de religion formelle, il parle en fait d'un corpus doctrinal qui a été forgé par un ensemble de savants à l'époque médiévale et qui est encore en règle aujourd'hui.
Qui verrouille. Oui.
Et la religion personnelle, c'est cette liberté de l'individu, en particulier en islam, qui peut accéder à Dieu sans aucun intermédiaire, sans clergé. Et cette liberté-là, elle est fondamentale. Et en fait, et c'est là où on voit qu'il n'y a aucune séparation entre un soi-disant Orient et un soi-disant Occident. Henri Bergson, philosophe qui a aussi thématisé cette distinction entre ce qu'il appelle une religion statique, celle qui va réguler les aspects sociaux, et une religion dynamique qui ne concerne que l'individu avec Dieu. Et c'est effectivement, à mon avis, dans ce sens-là que ça nous permettrait de dépolitiser l'islam et d'éviter d'en faire un outil d'influence dans le champ politique, puisque dans une société laïque, il n'y a plus de religion, il y a des individus, tous égaux, qui s'investissent pour faire des choix sur leur vie en commun.
Mes questions à la femme imam que vous êtes, quand on vient d'entendre effectivement ces propos sur le fait qu'on n'a pas forcément besoin d'un intermédiaire entre soi et Dieu, vous, qu'est-ce que vous en pensez? Vous êtes imam, vous avez choisi d'être imam.
Mais parce que je ne conçois pas l'imamat comme l'imam n'est pas un clerc. L'imam n'est pas un intermédiaire, il n'est pas responsable des actes de ses fidèles.
C'est un
chaque
guide
individu.
Spirituel.
Non, je ne pense pas que ce soit un guide. C'est une personne qui a effectivement des connaissances sur les textes religieux, sur l'histoire de cette religion, et qui va donner des outils aux personnes qui viennent à la mosquée pour mieux connaître les textes, essayer d'avoir tous les outils en main. Après, la décision finale appartient uniquement à l'individu. Et l'imam en islam, donc, non seulement n'est pas un clerc, mais au départ, un imam est juste une personne qui dirige la prière et qui peut être n'importe quelle personne, n'importe quel musulman qui sait faire la prière et qui est d'accord pour la diriger. L'imam n'est pas forcément un théologien. Le théologien, lui, va faire des études dans des facultés de théologie. L'imam, dans une mosquée, c'est une fonction qui est extrêmement réduite. Ça n'a rien à voir avec la prêtrise ou le rabbinat.
Avant de poursuivre, Eva Janadin, quelques mots sur la mosquée Simorgue, donc une mosquée mixte.
Oui, la mosquée Simorgue est une mosquée mixte, donc à Paris, où les femmes peuvent être imams et ne sont pas obligées de se voiler également.
Vous écoutez Religion du Monde. Notre invitée est l'imam Eva Janadin, déléguée générale de l'association L'Islam au XXIe siècle, à propos donc de la deuxième conférence de Paris qui s'est tenue en février dernier sur le thème Islam et identité entre culte et culture. On poursuit avec la communication de Samia Langar. On l'évoquait tout à l'heure, Eva Janadin. Elle a une communication tout à fait intéressante. Elle est docteure en sciences de l'éducation. Sa thèse a porté sur l'islam et l'école en France. Donc, il s'agit d'une enquête de terrain réalisée auprès de familles musulmanes de Vénissieux, en banlieue lyonnaise, des familles en grande majorité d'origine algérienne et dont les enfants appartiennent à la troisième, voire à la quatrième génération. Alors, Vénissieux, berceau, on s'en souvient de la marche pour l'égalité et contre le racisme en 1983 et qui en garde la mémoire. Pour qualifier le rapport à l'islam, très fort, donc dans la ville de Vénissieux, Samia Langar parle d'islam de requalification.
Moi, ce que j'appelle requalification, c'est que, en fait, c'est ce que je disais, requalifier, c'est parce qu'on se sent déqualifié, sans qualification. Donc, on a un besoin de se requalifier. Et se requalifier, pourquoi? En tous les cas, pour certaines personnes, je ne généralise surtout pas, c'est une enquête qualitative que j'ai faite. Donc, c'est en fait, la reconnaissance, la qualification que l'école ne nous a pas donnée ou que la société française ne nous a pas donnée, on va chercher cette requalification chez l'islam, c'est-à-dire retrouver une estime de soi. Et aussi, vu que l'islam est quand même présenté comme un très mauvais objet ces dernières années, dernières décennies on pourrait dire, c'est aussi requalifier l'islam en lui-même. l'islam comme objet, requalifier la religion.
C'est-à-dire restaurer en quelque sorte l'islam.
Une requalification, c'est, on peut parler de restauration, on peut parler de reconstruction de soi-même, de retrouver une estime de soi et une confiance en soi.
Alors, ce que je retiens aussi, c'est l'avis des professeurs d'un côté et puis le ressenti des élèves de l'autre. Alors, du côté des professeurs, il y a vraiment le « nous et eux ».
Alors, je suis très contente que vous me posiez cette question. C'est certains enseignants. C'est une enquête qualitative, je n'ai pas vu de nombreux enseignants. Mais certains enseignants, ont ce sentiment qu'il y a vraiment une grande différence entre les élèves et eux-mêmes ou elles-mêmes.
Un fossé culturel ?
Un fossé culturel, des différences culturelles. Fossé, c'est un peu excessif, mais depuis certaines années, et ça s'est creusé au fur et à mesure des années, depuis quelques années, elles ressentent certaines, je dis bien certaines, une différence culturelle entre elles et les élèves. Et ces différences aussi se voient dans des moments anodins, des moments de cours. Par exemple, j'ai une enseignante qui m'expliquait que, en fait, une enseignante de français littérature, et elle m'expliquait que, voilà, elle avait constaté que quand elle traitait des ouvrages qui mettaient en avant les suicides par amour, des ouvrages très romantiques, hein, une littérature du 19e, Et en fait, elle avait des réflexions ces dernières années qui étaient assez étonnantes de sa part, qui disaient qu'en fait, finalement, il ne voyait pas le côté amoureux, enfin le côté romantique du suicide, mais plutôt, suicide par amour, Juliette, mais plutôt, ses élèves disaient que oui, en fait, madame, c'est péché, quoi. On ne peut pas se suicider, c'est péché. Donc, je vous donne cet exemple.
Il n'abordait pas cela de façon littéraire.
C'est ça. Et je vous donne cet exemple, ce qui est significatif. Parce qu'on n'est pas dans le rejet de quoi que ce soit. C'est vraiment un exemple. Et ça, c'est intéressant. Donc, voilà. Donc, oui, pour certains enseignants. Mais en même temps, ces enseignants disent que, en fait, c'est dû à... ce sont des territoires enclavés. C'est vraiment... Ce sont des territoires où il n'y a aucune mixité sociale. Aucune mixité sociale. Donc, forcément, on va avoir... c'est plus complexe. Mais il y a aussi, ce que j'évoquais tout à l'heure en termes de minorité construite, il y a aussi une question de représentation. Et on va faire les élèves... Il y a aussi une forme de retour du stigmate de la part des élèves. Il y a aussi... On les décrit d'une certaine manière, ils vont retourner stigmate et puis appuyer le trait. Et autre chose aussi, qui me semble... extrêmement important, c'est l'effet de groupe. Il y a un effet de groupe de socialisation.
Vous évoquez certains professeurs un peu déstabilisés, on va dire, par la réaction de certains élèves. Du côté des élèves, cette vie ghettoisée, vécue comment ? Est-ce que c'est mal vécu ou au contraire, c'est bien vécu, c'est même recherché ?
La première chose, et j'insiste pour les élèves, j'ai pas fait d'entretien auprès des élèves. Consulté beaucoup de recherches. Mais sauf que, en fait, moi j'ai le point de vue des élèves par rapport aux parents et aux enseignants. Alors, cette ghettoisation, elle est paradoxale. C'est-à-dire qu'ils trouvent une sécurité sur le territoire. Et avec une enseignante où j'essayais de développer cette thématique, de creuser cette question... elle me disait qu'elle ne comprenait pas, ils sont bien entre eux, quand ils vont, par exemple, pour une sortie, ils sont mal, quand ils sortent de leur quartier. Donc j'ai essayé de creuser avec elle, je dis, mais à votre avis, pourquoi ? Pourquoi ils sont mal quand ils sortent de leur quartier ? Et moi, je fais l'hypothèse que c'est aussi, en fait, oui, le quartier est un refuge, parce que en dehors du quartier, on a une image négative, donc des représentations. En fait, ils se représentent les représentations que les autres, les gens de la ville, entre guillemets, peuvent avoir sur eux. Tout à fait. Mais ce qui est intéressant, et ça les parents et les enseignants me l'ont dit, c'est que en fait, les élèves, ça c'est pour le coup, c'est les parents qui m'en parlent et eux-mêmes le souhaitent, c'est que c'est des élèves qui ont le souhait de partir, de quitter la France, partir en Angleterre ou au Canada. Donc c'est aussi peut-être le constat d'un malaise. Parce que j'imagine qu'en tant que musulmans au Canada ou dans les pays anglo-saxons, ils seront mieux reçus et plus respectés. Il y a cela. Et ça, je l'ai entendu à plusieurs reprises des parents aussi.
Intéressant, hein, Eva Janadin, cette communication de Samia Langar sur son sujet de thèse. Alors, la notion de rejet, effectivement, qui ressort. L'auto-assignation, j'allais dire, à résidence. Hein, on se met soi-même en retrait. Cette surenchère aussi par rapport à l'islam, bon, pour la recherche, et c'est tout à fait naturel, d'une estime de soi.
Ah oui, mais de toute façon, dans toute quête identitaire, il y a un besoin d'estime de soi. On va là où on se sent le mieux et le plus à sa place. Donc forcément, ça implique de fuir tous les endroits où on ne se sent pas à sa place. Et c'est important, cette communication était très importante, de vraiment montrer que nous avons fabriqué nos propres séparatismes. On ne peut pas aujourd'hui continuer à se plaindre d'une soi-disante invasion musulmane, par ailleurs totalement fantasmée, quand ça fait des années qu'on a ghettoisé des personnes dans des quartiers et que des personnes d'origine maghrébine ou autre ou subsahariennes subissent du racisme, des discriminations dans l'emploi, dans le cadre de la recherche d'un logement. C'est des chiffres qui existent et qui ont largement participé en fait à ce sentiment de rejet. De la même façon, dans les quartiers les plus pauvres, pourquoi continuer encore une fois à se plaindre alors que aujourd'hui la République a oublié certains territoires? Évidemment, qui est-ce qui vient à la place en fait des autorités, des associations qui prônent un islam politique et qui vont prendre sous la main en fait ces jeunes qui sont plus en perdition, qui sont en quête identitaire et qui ont besoin de se sentir valorisés? Ces éléments-là, il ne faut absolument pas les oublier, et c'est pour ça que je ne pense pas que la solution soit du côté d'une pseudo-assimilation culturelle à la française. La solution, elle est dans les solutions concrètes, pratiques, sociales, où on doit réinjecter beaucoup plus, on doit donner envie en fait à ces jeunes d'aimer vraiment leur pays et ne pas fantasmer totalement les pays anglo-saxons. Sachant qu'il ne faut pas oublier non plus de mentionner que dans les pays anglo-saxons, il y a aussi du racisme. Ce n'est pas, effectivement, il y a un mode de reconnaissance des communautés qui est différent que la France. Mais voilà, cette idée du fantasme de l'ailleurs où serait bien mieux pour moi, il faut essayer de transformer les choses.
Oui, l'Angleterre ou le Canada. Bon, cela dit, il y a aussi dans ce mécanisme quand même très complexe une forme d'auto-assignation à résidence. Ça existe aussi, ça.
Oui, il y a une auto-assignation, mais je pense aussi qu'on se réfugie dans son quartier et on ne veut plus en sortir parce qu'on ne se sent pas bien, en fait, à l'extérieur. Regardez, par exemple, des banlieues du 9-3. J'ai déjà eu l'occasion à plusieurs reprises, enfin, j'ai des amis qui ont vécu là-bas et qui presque se sentaient mal de passer le périph'. À part pour des personnalités peut-être plus fortes, plus sûres d'elles-mêmes, qui vont y aller et qui vont essayer d'aller de l'avant. Mais c'est très compliqué.
Alors, on revient, Eva Janadin, sur la thématique de l'émission, ce rapport entre foi musulmane, identité, culture, avec la communication d'Elé Béji, qui est une femme écrivain, essayiste, née à Tunis. Cet agrégé de lettres modernes a écrit de nombreux essais à la croisée de la philosophie et de la politique. Et elle s'oppose très nettement à tout ce qui est identité enfermante, à tout identitarisme, qu'il soit culturel, religieux ou national. Et j'ai retenu de sa communication, elle aussi, tout à fait intéressante, une communication qui se voulait un plaidoyer humaniste. Eh bien, elle proposait, pour réduire en quelque sorte les tensions identitaires, de valoriser dans les sociétés occidentales les qualités du monde arabo-musulman, notamment le lien social très fort qui existe dans la culture arabo-musulmane et méditerranéenne. On l'écoute.
Non, il y a certainement un art de vivre dans la cité musulmane. Hein. Il y a un très grand art de vivre, il y a une très grande douceur. Hein. Vous savez, ce sont des pays où les gens, dans la vieille ville, en particulier où je vis, ont des relations extrêmement... Il y a une très grande politesse, il y a une très grande civilité entre les gens. Il y a ces espèces de mots qui sont là tirés du religieux, de bénédiction tous les matins, de bénédiction le soir, qui vous enveloppent comme ça dans une même humanité. Parce que la religion, c'est quand même l'universel. C'est-à-dire, c'est d'aller chercher dans le cœur humain tout ce qu'il peut ressentir d'identique, de souffrance, de peur, d'angoisse. Mais ce ne sont pas des particularismes, parce que tout ce que je viens de vous dire, le goût des autres, ça a existé. Sauf que peut-être maintenant... C'est plus tangible chez les musulmans parce que ça a tellement disparu d'une société individualisée, dispersée, atomisée, que les liens ont été rompus. Alors que chez les musulmans, les liens humains restent très forts. Parce que c'est vrai, quand j'arrive à Paris, je me rends compte combien le lien est ténu entre les gens. Ce sont des sociétés en quelque sorte un peu plus anciennes, les nôtres. Donc elles ont gardé cette couche du passé vivante. Et cette couche du passé, c'est la force des relations humaines. Pour moi, si vous voulez, ça me fait penser, quand je lis les romanciers du 19e siècle ou du 18e siècle, ou même d'avant, c'est la vie populaire. Moi, je crois que c'est le peuple qui a des liens. Je suis sûre que dans les couches populaires en France, il y a des liens humains encore très forts qu'on ne voit pas et que les médias ne montrent pas, quoi. Et donc, on croit que la société, elle est faite d'intellectuels isolés, de politiques. Non, pas du tout. Je crois que dans le peuple, d'ailleurs, on a vu ces liens avec les Gilets jaunes. Qu'est-ce que c'est que le rond-point ?
En tant que Tunisienne, vous avez suivi de près la crise des Gilets jaunes ?
Mais comment ? J'ai adoré la manière dont les gens se retrouvent. Et tout d'un coup, ils ont vu qu'ils n'étaient pas seuls dans la vie. C'est beau de découvrir qu'il y a d'autres êtres humains et que vous n'êtes pas seul dans l'univers. Et que vous pouvez vous battre ensemble, que vous réussissiez ou pas, peu importe. C'est ça.
Vous avez cité donc ce matin, parmi ces valeurs, n'est-ce pas, pratiquées dans le monde arabo-musulman, l'épicurisme, la civilité, la résistance de la famille. Alors dites-nous, expliquez-nous.
Oui, je crois que c'est vraiment le noyau dur là, du monde arabo-musulman. Là. C'est-à-dire la famille. Il y a une force, en quelque sorte, du lien familial, de la généalogie, de la filiation, du père, la mère. Il y a une sacralité des parents, des grands-parents, des ancêtres. Et ça, c'est quelque chose qui ne va pas être détruit par le monde moderne. Je crois que c'est là la vraie résistance des musulmans. C'est qu'ils refusent que la famille soit détruite. Moi, je vois ça comme ça. Les familles européennes sont complètement démantelées, je dirais, malheureusement, avec de grands drames aussi, de solitude, des jeunes, on voit des étudiants qui se suicident, par exemple, des choses comme ça, des parents, des vieux qui sont abandonnés. Non, dans la famille, les vieux, sur plusieurs générations, sont toujours dans la famille. Donc, je crois que c'est une force de résistance à la culture inhumaine, de la désintégration du lien social. Il reste la famille. Et ça, je pense que c'est un noyau qui ne va pas se désintégrer.
Alors, Eva Janadin, votre réaction au propos d'Élie Béji sur cette valorisation, effectivement, on n'en parle jamais de ça, de ce qui est positif, effectivement, dans la culture arabo-musulmane.
Oui, tout individu a besoin d'être valorisé pour retrouver sa dignité. Et c'est extrêmement important ce que Élie Béji a rapporté, cette manière humaniste, en fait. Cet humanisme musulman, mais humanisme musulman revient encore à exclure peut-être les autres, mais un humanisme qui va nous rassembler sur des valeurs qui sont universelles, ce lien aux autres, pour éviter la désintégration sociale. Et vraiment la force, je pense, la plus puissante aussi pour revaloriser tout ça et comprendre qu'il y a bien plus de ressemblances et éviter d'exclure, de s'exclure, s'auto-exclure mutuellement.
Alors, chaque année, donc le 8 mars, c'est la Journée internationale des droits des femmes. Pour l'illustrer, il y a vous, Eva Janadin, dans ce studio. Et puis, lors de cette deuxième conférence de Paris de l'association Islam au XXIe siècle à l'UNESCO, eh bien, la présence de Serhan Ateş. Donc, avocate, imam. Elle est née en Turquie en 1963. Elle est arrivée en Allemagne à l'âge de 6 ans. Elle est avocate, c'est une militante des droits de l'homme. Elle est musulmane, elle est imam de la mosquée libérale qu'elle a fondée en 2017 à Berlin, Ibn Rushd Goethe, qui est ouverte à la communauté LGBT. Alors cette femme qui lutte contre la violence religieuse depuis plusieurs décennies, eh bien, vit sous escorte policière 24 heures sur 24. Et puis il faut rappeler aussi qu'en 2021, j'oubliais, elle a lancé la campagne « L'amour est halal ». Et ça ne passe pas toujours. Alors on va l'écouter, traduite par Gabrielle Venmer, qui est interprète de conférence. On écoute Serhan Ateş. Le début de notre échange avait porté sur le thème de la révolution sexuelle en islam.
Oui, je voudrais juste ajouter que la révolution sexuelle n'est certainement pas encore achevée en Europe. C'est un processus qui n'est pas fini. Mais il y a un décalage entre ce qui se passe dans la société islamique et dans les pays de l'Occident, quoi. Mais rattrape, entre guillemets, on peut ensuite faire le prochain pas ensemble.
Ça, c'est très optimiste.
Oh, yeah. Si je n'étais pas une femme optimiste, je ne pourrais pas vivre comme je le fais.
Et une femme qui vit sous protection policière 24 heures sur 24 quand même.
Genau, und das ist auch noch mal eine Bestätigung für mein Optimismus.
Mais cela me confirme dans mon optimisme, parce que dans cette démocratie qu'est l'Allemagne, l'ancienne chancelière, le chancelier actuel, la ville de Berlin, la municipalité, eh bien, ils me soutiennent dans ma lutte pour la liberté dans les religions. Et c'est quand même très encourageant que la police de Berlin finance ma protection, ils m'organisent cette protection. Et ça ne fait que confirmer et renforcer mon optimisme. Dans cette démocratie, la liberté, les libertés pour tout le monde, dans un autre État autrefois, on m'aurait mis en prison. Et maintenant, on me protège, c'est quand même une bonne chose.
En France, vous avez évoqué, dans votre communication, vous avez évoqué ce reportage sur M6 dans la ville de Roubaix. Et effectivement, après, il y a eu des menaces de mort sur... la présentatrice est un des protagonistes de cette enquête. Comment certains ont parlé, effectivement, de ça a créé des réactions, hein, d'islamophobie, etc. Comment vous réagissez?
Oui,
c'est une réalité très triste. On utilise toujours cet argument de l'islamophobie pour faire taire quelqu'un, pour lui claquer le bec, si vous voulez. Et si nous voulons des réformes, on parle tout de suite d'islamophobie, même si l'on critique des actes de violence ou des actes contre les droits de l'homme, de l'être humain, des droits humains, ça doit quand même être possible. Et si l'on critique quelque chose comme ça dans la communauté des musulmans, ça ne veut pas dire qu'on critique tous les musulmans ou tous les pratiquants de l'islam. C'est pareil en Allemagne, en bien des cas. Mais il faudrait être plus honnête quand il s'agit de protéger les droits humains. Ça ne veut pas dire qu'on est contre les musulmans. Il faut qu'on le comprenne. Il faut qu'on soit tous contre la violence et les infractions quand on foule les droits de l'homme au pied.
Quand on parle de cette unité, eh bien, vous, déjà, vous êtes tout à fait dans le dialogue interreligieux, puisque vous nous avez dit que vous revenez d'un pèlerinage à Compostelle. Est-ce que pour vous, bah, des non-musulmans pourraient aller aussi à la Mecque?
Leider nicht. Und genau dafür pilgere ich.
Oui, ce n'est pas possible pour les non-musulmans d'aller à la Mecque. Et c'est exactement pourquoi j'ai fait mon pèlerinage sur un chemin, un camino catholique, parce que je voudrais bien que les musulmans eux aussi ouvrent la Mecque aux non-pratiquants de l'islam et que l'on puisse vivre une spiritualité ensemble. Et je trouve que c'est très intéressant. Pour moi, c'est une expérience. Je cherche la paix, je cherche la spiritualité. Je veux apprendre des catholiques qui sont sur le chemin de Compostelle. Et pourquoi les musulmans ne donneraient pas la possibilité d'offrir aux autres de voir comment eux, ils vivent leur spiritualité? Je pense que ça serait une très bonne chose.
Das wäre und das ist echte interreligiöse Zusammenarbeit und Dialog.
L'appel à la rencontre interreligieuse de l'imam Serhan Ateş. Ce sera la conclusion de cette émission sur la deuxième conférence de Paris de l'association L'Islam au XXIe siècle. Merci à vous Eva Janadin d'être venue la commenter pour nous. Et j'ajouterai pour terminer un grand absent à ce colloque, l'islamologue et anthropologue de l'islam Malek Chebel, décédé en 2016. Une rue ou un espace culturel à Paris portant son nom est à l'étude sur le bureau de la mairie de Paris. Une initiative de la fondation Malek Chebel, soutenue par de nombreuses personnalités du monde musulman et bien au-delà. C'est la fin de Religion du Monde. Geneviève Delrue, Ludivine Amado vous donne rendez-vous dimanche prochain. Bonne semaine à tous.